VOA Afrique, les infos. À Washington, Camille Grosdidier.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel. Jean-Roger Billon à ce micro. On commence ce journal par Davos, les nouvelles de Davos. Donald Trump a nié aujourd'hui avoir voulu renvoyer l'année dernière le procureur spécial chargé de l'enquête russe, Robert Mueller, comme l'a affirmé jeudi le New York Times. Fake news, fausse nouvelle typique du New York Times, a lancé le président américain aux journalistes qui l'accompagnent au Forum mondial de Davos. En Suisse, selon le quotidien américain, l'ordre de limoger le procureur spécial avait été donné en juin 2017 avant d'être abandonné. Cela dit, le président américain, dans le discours qu'attend tout Davos, va plaider dans quelques heures pour un commerce mondial ouvert, mais aussi juste et équitable, a fait savoir un haut responsable de l'administration Trump. Devant une audience qui redoute ses élans protectionnistes, le locataire de la Maison-Blanche devrait s'engager pour un marché libre et ouvert, mais dans des conditions justes et équitables, a-t-il dit. Le président sud-africain Jacob Zuma n'a pas participé au forum économique de Davos en Suisse. C'est la première fois qu'un dirigeant sud-africain s'absente à ce rendez-vous. La délégation de Pretoria est conduite par le vice-président et président de l'ANC, Cyril Ramaphosa. Le pouvoir serait-il en train d'échapper au président Zuma? L'analyse d'Achille Mbembe, politologue joint par Eric Manirakiza à Pretoria.
Il ne pèse plus d'un poids substantiel sur l'échiquier politique sud-africain. En principe, dans le système politique sud-africain, le leader de l'ANC, du parti au pouvoir, détient au fond l'essentiel du pouvoir. Les élections qui ont eu lieu le mois dernier ont confirmé l'ascension de M. Ramaphosa. Et pour l'heure, c'est lui qui dirige le pays lui-même et les 6 membres du Conseil national de l'ANC. C'est pour cela qu'il se trouve à Davos.
Mais Ramaphosa a gagné avec une légère majorité.
Oui, le parti était fortement divisé. Il demeure dans une large mesure, mais il est également clair que les membres du Conseil national de l'ANC, les 80 personnes qui au fond dirigent le parti, la plupart d'entre eux penchent du côté de celui qui est au pouvoir. Et celui qui est au pouvoir pour les 10 années qui viennent, c'est Ramaphosa. Zuma fait désormais partie du passé. Il essaye de l'amener à démissionner à partir lui-même. J'imagine qu'il est en train de négocier justement cette démission.
Est-ce que c'est quelqu'un qui peut être forcé de partir ou ça pourrait avoir des conséquences sur le parti?
Le mieux serait qu'il démissionne de son propre gré, ce qui éviterait la désunion du parti et une crise politique parfaitement inutile. Mais tout le monde ici sait de quel bois est fait M. Zuma. Il négociera sans doute au prix le plus élevé son départ du pouvoir.
Mais c'est quand même étonnant, il est le président du pays.
Il y a deux choses. La première, c'est qu'il y a un désajustement du calendrier politique. Les élections au sein de l'ANC ont lieu au moins 19 mois avant la fin du mandat présidentiel. Coïncide avec l'année électorale en Afrique du Sud. Le plus simple consisterait à harmoniser le calendrier politique. Sur un autre plan, M. Zuma a causé beaucoup de tort à son pays. Il est discrédité. Il a été le président qui, pendant longtemps, apparaîtra comme le plus corrompu dans l'histoire de l'ANC. Il est l'objet d'innombrables poursuites judiciaires. Il n'est pas évident qu'une fois parti, il reste libre. Il risque la prison, au point où on en est. Et donc, il a énormément peur de s'en aller. Il a voulu se faire remplacer par son ex-femme. Ça n'a absolument pas marché. Et donc, sa situation s'est largement affaiblie. Et le plus vite il s'en va, le mieux c'est pour la nation sud-africaine.
L'analyste Achille Mbembe à Pretoria. Le 30e sommet de l'Union africaine se tiendra les 28 et 29 janvier à Addis Abeba en Éthiopie. Les travaux préparatoires ont commencé le 22 janvier avec les ambassadeurs africains, puis les ministres des Affaires étrangères ont pris le relais pour préparer la réunion des chefs d'État. Selon les experts, la corruption coûte chaque année 50 milliards de dollars à l'Afrique. Le point sur l'agenda des chefs d'État avec Gita Shaw, Tedla à Addis Abeba.
Le 30e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine a inscrit dans son ordre du jour 5 principaux points, à savoir les plus culminants, la corruption égabégie, la réforme administrative de l'institution continentale telle conçue par le président rwandais Paul Kagame, qui prendra par anticipation la présidence tournante au terme des travaux du sommet. L'Union africaine, désormais, devant prêter l'oreille à la société civile, le règlement des conflits prévalant dans certaines parties du continent, et pour ce faire, allouer le budget de fonctionnement adéquat afin de ne plus dépendre de l'assistance étrangère. Ce sont là, bien entendu, de bonnes intentions comme toujours. Mais quant à leur réalisation, de l'avis des ambassadeurs résidant dans la capitale éthiopienne, dont les travaux viennent de s'achever pour la reprise du Conseil des ministres, sont confiants tant que l'Afrique n'a pas d'autre porte de sortie. Kitatio Tedla, Addis Abeba pour La Voix d'Amérique.
Un centre international de formation à la lutte antiterroriste va ouvrir en Côte d'Ivoire en septembre prochain. C'est ce qu'ont annoncé le ministre ivoirien de la Défense, Ahmed Bakayoko, et l'ambassadeur de France, Gilles Huberson. Le point avec Morgan Guiriec.
L'école de Jacqueville, à une trentaine de kilomètres d'Abidjan, accueillera des cadres avant de recevoir les premiers stagiaires au premier trimestre 2019. Elle recevra surtout des membres des forces de sécurité, mais aussi des fonctionnaires ou agents pouvant être concernés. Et cette école aura d'abord une vocation régionale, puis internationale, a assuré l'ambassadeur de France. Elle formera des unités pouvant intervenir rapidement sur des attentats, mais aura aussi une expertise en matière d'identification ou de mode opératoire, a précisé le ministre ivoirien de la Défense. D'autres centres, comme une école de déminage au Bénin, fonctionnent déjà. Le centre de Jacqueville vise à devenir une référence mondiale en matière de lutte contre le terrorisme.
Près de 40 personnes, dont plus de la moitié de civils, ont péri dans des attaques au Mali en l'espace de 24 heures, au moment où l'ONU donnait aux signataires de l'accord de paix de 2015 deux mois pour prouver leur bonne volonté. La situation semble particulièrement se détériorer dans le centre du Mali, aux confins du Burkina Faso et du Niger, zone dans laquelle se concentrent les premières opérations de la force conjointe anti-djihadiste du G5 Sahel, organisation régionale regroupant ces trois pays, la Mauritanie et le Tchad. Au Cameroun, un gendarme a été tué jeudi dans une attaque attribuée à des séparatistes présumés dans le nord-ouest du pays, l'une des deux régions anglophones. Anastasie Toudiech.
La victime est un adjudant-chef déployé dans le cadre des opérations de sécurisation des zones anglophones. Mercredi, de nombreux tracts ont circulé dans la ville de Kumbo, annonçant la création d'une armée de résistance dénommée Banso Résistance Army, qui dit vouloir se battre, comme le font déjà d'autres, pour l'indépendance du Cameroun anglophone. Début janvier, le leader des indépendantistes, Sissiku Ayuk Tabe, et 9 de ses partisans ont été arrêtés au Nigeria, où ils sont détenus au secret, selon Amnesty International. Le 1er octobre, son mouvement a publié une déclaration symbolique d'indépendance de l'Ambazonie, nom donné à leur projet séparatiste. Après plusieurs attaques contre les forces de l'ordre, les autorités camerounaises ont accru la pression sécuritaire. Les rangs des sécessionnistes se sont aussi étoffés, faisant craindre l'émergence d'une insurrection armée.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au moins 33 personnes sont mortes et plus de 70 ont été blessées aujourd'hui dans un incendie survenu dans un hôpital de Corée du Sud, le pays sinistre qu'est connu le pays depuis une décennie. C'est le second incendie dévastateur dans l'un des pays les plus avancés d'Asie et la quatrième économie de la région en tout juste un mois. Le bâtiment de 6 étages abritait une maison de repos pour personnes âgées en plus de l'hôpital. D'après le service national des pompiers, 33 personnes ont péri, tandis que 13 personnes sont dans un état critique. 61 autres personnes ont été blessées légèrement, a expliqué un porte-parole qui n'a pas exclu une aggravation du bilan. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a menacé aujourd'hui d'élargir à d'autres villes du nord de la Syrie l'offensive turque en cours contre l'enclave d'Afrin afin d'éliminer toute présence d'une milice kurde considérée comme terroriste par Ankara. Dans un discours télévisé, M. Erdogan a promis de nettoyer Minbej, situé à une centaine de kilomètres à l'est d'Afrin, où des forces américaines sont présentes aux côtés des miliciens kurdes, et de ne laisser aucun terroriste jusqu'à la frontière irakienne. Et puis le premier parti politique thaïlandais qui était au pouvoir avant le dernier coup d'État a condamné le nouveau report des élections à 2019, estimant que cela servait uniquement à laisser le temps à l'armée de se préparer. Jean-Roger Billon à ce micro au prochain journal dans 50 minutes. A tout à l'heure et merci pour votre fidélité.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.